seuls 11% des masses d'eau de la région sont en bon état écologique. L'eau, un enjeu de société. Une série spéciale de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Nous voilà sur la rivière de contournement de Montreuil-sur-Maine.
Sur la Mayenne, comme ailleurs, l'activité humaine est venue contraindre le cours naturel de l'eau. Les barrages fréquents bloquent la remontée de la rivière par certains poissons migrateurs. Des dispositifs existent donc pour garantir la continuité écologique de ces espèces, comme une rivière de contournement. C'est ce que nous explique François Le Tourmy, technicien domaine public fluvial au département de Maine-et-Loire.
On avait sur cette partie-là, en rive gauche du cours d'eau, uniquement des prairies. On a pu concevoir cette rivière qui, en fait, tout simplement contourne le barrage pour le rejoindre juste à l'aval, quoi. On maîtrise les débits qui rentrent dans cette rivière et donc ils restent relativement faibles. Et donc pour éviter d'avoir des vitesses d'eau trop importantes dans cette rivière de contournement, on a remis des seuils intermédiaires. On voit plein de petits seuils qui sont donc comme des mini-barrages en béton, en fait. Hein. D'ailleurs, tu vois, les seuils, ils sont en forme de V. Donc en fait, plus le niveau d'eau baisse et plus le débit qui rentre dans la rivière devient faible. Et donc on impacte de moins en moins en fait, l'eau en amont.
Je me pose une question très bête, mais si on fait une rivière de contournement, pourquoi on n'enlève pas tout simplement le barrage ?
Le problème, c'est que c'est pas la solution idéale pour maintenir la navigation et puis tous les usages qu'on peut avoir de ces barrages. Donc ici, il n'était pas question de cette solution-là.
Et on a un retour des poissons, ce qu'ils en pensent ?
On n'a pas de retour directement des poissons, pas plus que sur les autres systèmes. Par contre, on s'est déjà rendu compte que ces rivières, elles avaient une qualité en plus, c'est d'être des habitats. On se rend compte qu'il y a plein de poissons qui vivent en fait maintenant à l'année, hein, qui élisent des domiciles dans la rivière de contournement et qui ont des poissons un peu différents de ceux qu'on trouve dans la rivière, dans la grande rivière, disons, parce que les eaux sont courantes, en fait, et donc on va avoir des espèces adaptées à ces milieux.
François nous fait descendre la rivière pour aller découvrir un autre dispositif permettant la continuité écologique à hauteur du barrage de Grenneville, toujours sur la Mayenne.
Donc là, ce qu'on va voir en rive gauche, tout au fond, c'est un ancien moulin. Ensuite, on va avoir accolé à ce moulin un premier pertuis. On a accolé à ce pertuis une passe à anguilles. Et ensuite, on retrouve le barrage pour arriver en rive droite à la passe à macro-rugosité.
Alors ici, spécifiquement, du coup, à Grenneville, percé à deux endroits sur le barrage, on a des espèces des menhirs, des piliers qui sont empilés. Qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place comme solution, justement, pour leur permettre de franchir ce barrage?
C'est un mot barbare, on dit une passe à macro-rugosité, donc qui est en fait tout simplement une pente en béton dans laquelle on vient mettre des blocs en béton, des menhirs, qui vont réduire la vitesse des écoulements et donc permettre aux poissons de remonter plus sereinement cette chute d'eau qu'on va donc étaler en fait, hein, le long du barrage. De l'autre côté, on a le même dispositif, finalement en miniature, et qui va être destiné exclusivement aux anguilles.
Ça fonctionne ?
Donc c'est très récent, on a assez peu de recul aujourd'hui sur leur efficacité. On n'a pas de dispositif de suivi particulier qui ont été mis en place, parce que c'est très difficile à suivre. En fait, ce qui existe comme système, c'est ce qu'on appelle de la télémétrie. Donc c'est mettre des puces sur les poissons et ensuite des radars en fait pour pouvoir savoir où ils en sont, ça coûte très très cher, donc le département n'a pas fait le choix de ce suivi. Par contre, il y a quand même des pêches électriques qui sont faites à des échelles plus larges, notamment par l'Office français de la biodiversité, et qui permettent de rendre compte des espèces qu'on va trouver le long du cours d'eau. Et donc à ce titre-là, on commence déjà à avoir une bonne efficacité de ces passes à poissons. On a par exemple trouvé à Sablé-sur-Sarthe une alose. Donc poisson migrateur qui était jusqu'à présent bloqué à chef sur la Sarthe.
C'est la solution idéale ?
Ça me paraît indispensable, hein, malgré le fait que c'est un coût relativement important. Il faut savoir que pour ces ouvrages, sur le chantier fini, on est de l'ordre de 1,5 million d'euros par ouvrage à peu près. Bon, après, il y a des financements, hein, qui viennent en grande partie de l'Agence de l'eau, de l'ordre de 50%, et de la région Pays de la Loire, de l'ordre de 30%.
Et pour continuer la discussion justement en lien avec le reportage qu'on vient d'entendre, je suis maintenant par téléphone avec Marie Fournier. Bonjour Marie.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en aménagement urbanisme à l'école supérieure d'ingénieurs géomètres
et topographe alors au Mans, un petit peu à Angers aussi en ce moment, ça dépend des missions, donc vous êtes chercheuse bien évidemment. Votre regard à chaud sur le reportage, les dispositifs qu'on vient de découvrir ensemble?
Oui, ben en fait, ce qu'on voit dans le podcast, c'est que c'est une opération très, très emblématique de tout ce qui se passe finalement aujourd'hui sur un grand nombre de cours d'eau français, où on est dans un vrai, dans une vraie logique de ce qu'on voit, c'est que bah, la manière dont on appréhende ces cours d'eau a évolué là dans les dernières décennies. Donc depuis le milieu des années 90, en gros, hein, en France et en Europe, il y a un changement de paradigme dans le champ de la gestion des cours d'eau avec la montée en puissance de l'écologie de la restauration, on va dire. Et puis bah, forcément, cette remise en question progressive des démarches de curage, recalibrage, rectification des cours d'eau qui avaient caractérisé les décennies précédentes. Et c'est un changement de paradigme bah, qui a été vraiment conforté par la directive 4 sur l'eau 2000, mais qui s'est amorcé quand même un petit peu plus tôt. Et on a ce principe d'un retour à un bon état écologique et géomorphologique des cours d'eau. La directive 4 sur l'eau 2000, c'est un moment important, mais c'est vrai que là, on se rend compte que depuis quelques années, on est vraiment dans le temps de la mise en œuvre en fait, hein, de ces opérations. C'est-à-dire qu'il y a eu le temps de la réflexion pour tous les acteurs de la gestion de l'eau, les syndicats, ici le département. Et puis à un moment, bah, il faut vraiment agir, il faut vraiment rentrer aussi dans les attendus hein, du cadre réglementaire. Et donc là, depuis quelques années, on a vraiment ces opérations hein, qui se concrétisent et qui sont portées dans les territoires.
Alors là, on est sur de la gestion de cours d'eau. On ne fait pas que ça, puisqu'on gère l'eau plus globalement à l'échelle de la région, par exemple, des Pays de la Loire.
On gère l'eau. Alors après, finalement, appréhender un cours d'eau, c'est l'appréhender dans toutes ses dimensions, hein, que ce soit les milieux, que ce soit les populations piscicoles, les habitats naturels qui y sont présents. Et puis après, bah, effectivement, c'est d'autres dimensions. C'est gérer la quantité de la ressource en eau, la qualité de ces dernières. Et puis après, il y a une autre dimension hein, qui se rajoute, qui n'est pas forcément historiquement... appréhendé par les mêmes acteurs, mais c'est la question des risques, et entre autres des risques d'inondation ou dans un autre sens de sécheresse. Donc en fait, c'est très multidimensionnel d'appréhender les cours d'eau et leur fonctionnalité.
On parle d'eau auprès du grand public, on imagine surtout ce qui pose problème avec l'eau quand il y a des sécheresses. Alors c'est surtout le milieu agricole qui est confronté. Nous, grand public, c'est plutôt quand il y a des inondations, par exemple. Est-ce qu'on a des choses très problématiques comme ça localement, si on reste un petit peu sur la région Pays de la Loire, en termes d'inondations?
C'est très, très différent finalement d'un territoire à l'autre au sein de la région. Ça, c'est un petit peu difficile comme ça de répondre de façon globale. Ce qu'on peut dire, c'est que... Alors il y a une spécificité, hein, moi, je regarde beaucoup la Loire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une spécificité de cette Loire qu'on dit armoricaine quand on se positionne sur les secteurs d'Angers et puis aval d'Angers vers Nantes. On est dans un secteur où finalement il y a assez peu d'ouvrages de protection sur la Loire, et ce qui fait que finalement il y a encore par exemple de très nombreuses zones d'expansion de crues naturelles. On n'est pas sur un grand cours d'eau très aménagé. Par contre, sur les affluents, là on parlait de la Mayenne dans le podcast, là ce sont des cours d'eau qui sont assez aménagés, alors pas forcément avec des digues de protection, il y en a hein, sur tout un ensemble de cours d'eau d'affluents de la Loire, mais beaucoup de barrages. Par exemple, de petits ouvrages, alors soit pour faire fonctionner des moulins, et puis également des barrages pour retenir et pour contrôler finalement les débits et s'assurer d'avoir une gestion quantitative de la ressource. À grande échelle, on va dire, on a une Loire qui est assez, dans notre région, qui est assez finalement encore naturelle et qui fonctionne assez bien avec ses zones d'expansion de crues. Sur d'autres secteurs, et en particulier les petits cours d'eau ou les affluents de la Loire, il y a plus d'ouvrages peut-être, je dirais. Alors, tout est discutable, mais en tout cas, il y a eu des aménagements importants. Et aujourd'hui, ce sont ceux-ci, entre autres, qui sont retravaillés dans de nombreux secteurs. À nouveau, des ouvrages pour rectifier, pour s'assurer de la bonne gestion quantitative de l'eau ou pour aussi mieux valoriser le parcellaire agricole.
Et on parle de rectification, on parle de gestion de l'eau. Ça veut dire que vraiment, ces ouvrages qui ont pu être faits au cours du XXe siècle, qui ont commencé au XIXe, bien avant, mais en tout cas qui se sont intensifiés, on finit par poser problème aussi. On va tranquillement parler de l'urbanisme aussi plus globalement, mais tout ça, ça c'est venu créer un risque aussi en lien avec l'eau.
En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que les cours d'eau, quand ils ont été rectifiés, et ça, on le voit dans à l'échelle nationale, les cours d'eau rectifiés, bah forcément, ça pose un certain nombre de problèmes tant pour les habitats naturels que pour la gestion quantitative de la ressource et puis bah, plus largement pour la gestion des inondations parce que finalement, on a une accélération des pics de crues, on va avoir peut-être aussi des bassins versants où il va y avoir une moindre capacité du bassin versant à absorber, à retenir les ruissellements. Donc c'est vrai que toutes ces opérations de restauration écologique des cours d'eau, bah, elles participent aussi de la lutte contre les inondations. Quand on reméandre un cours d'eau, quand on reconnecte des annexes, des boires, ça participe aussi de la restauration de milieux aquatiques, de zones humides, qui sont aussi potentiellement, quand surviennent des inondations, des secteurs où finalement il va y avoir une meilleure capacité de rétention des eaux, en amont par exemple de secteurs urbains.
En quelques mots très simples, qu'on comprenne bien comment ça marche, du coup, si on parle du phénomène d'inondation par exemple, et cette nécessité aussi, et ces bénéfices de restauration de continuité écologique.
En fait, ce qu'on observe, c'est qu'en rectifiant les cours d'eau avec une logique de valorisation agricole ou alors d'aménagement peut-être urbain, on a réduit les capacités et les fonctionnalités naturelles de ces cours d'eau. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de nombreux acteurs et surtout des syndicats de rivières qui essayent de faire valoir le fait qu'en restaurant la continuité écologique, en restaurant les cours d'eau, on participe au meilleur contrôle des aléas. Et puis aussi, ce qui est intéressant, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que finalement, en restaurant les cours d'eau, on améliore souvent la capacité de ces secteurs à retenir l'aléa, mais aussi finalement on réduit les risques de sécheresse. C'est-à-dire que finalement on a des secteurs où on a de l'eau et des volumes qui vont être maintenus. Et donc c'est vrai que dans certains territoires, il y a vraiment une logique aussi de restauration, de reméandrage, de restauration des cours d'eau avec cette idée qu'on limite aussi le risque sécheresse ou en tout cas l'assèchement de certains secteurs. Et donc ça, c'est intéressant aussi.
Est-ce que l'eau, c'est notre meilleur ennemi d'une certaine façon, Marie ?
Je pense que concrètement, il faut repenser notre manière d'appréhender cette question. Effectivement, on a été très quantitatif vis-à-vis de cette ressource. Moi, il y a quelques années, je travaillais dans différents projets de recherche où il y avait cette idée c'était Freud-Humphreys, donc c'est vivre avec la rivière, vivre avec le cours d'eau. On se rend compte que finalement, c'est aussi des milieux qui nous offrent tout un ensemble de ressources, d'aménités. On peut aussi en faire une opportunité, on peut aussi améliorer même la qualité du tissu urbain en intégrant mieux la question de la place de l'eau aussi dans le paysage urbain, essayer de faire des villes éponges qui soient en capacité aussi de vivre avec l'eau. Ça crée aussi des paysages urbains qui sont quand même beaucoup moins minéraux. On pourrait citer plein d'exemples. Mais il y a aujourd'hui vraiment cette prise de conscience que en milieu urbain, il y a aussi nécessité de réfléchir à l'intégration et à cette capacité d'absorber l'eau qui est reçue.
Et oui, finalement, quand on parle de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, il ne faut pas oublier que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on en fait partie d'une certaine façon et l'eau fait partie de notre vie, donc on ne peut pas s'en couper. Merci beaucoup Marie Fournier. Du coup, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en aménagement urbanisme à l'École supérieure d'ingénieurs, de géomètres et topographes au Mans. Merci beaucoup.
C'était « L'eau, un enjeu de société », une série spéciale de La Frappe partenariat avec Terre des Sciences, avec le soutien de la région des Pays de la Loire.